cœur de l'histoire.
Et comme chaque jour à 13h15 sur Europe 1, Franck Ferrand nous entraîne au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, c'est une promenade royale qu'il nous propose au cœur du Versailles de Louis XIV. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Il n'est même pas 13h14 aujourd'hui.
Il est 13h13, nous sommes en avance.
On a fait rapide sur le journal. Pour nous guider au milieu du dangereux labyrinthe de cette impressionnante cour de France, j'ai choisi la meilleure des guides, la plus franche, à défaut d'être la plus discrète, Élisabeth Charlotte de Bavière, la belle-sœur du roi Soleil, surnommée Liselotte dans la famille et que nous appelons, nous, la princesse Palatine.
Et on a conservé beaucoup de lettres de la princesse Palatine, justement.
Oui, sa correspondance est abondante, notamment les lettres qu'elle adressait à sa famille. Or, c'est une correspondance truculente, vous verrez, foisonnante, pleine de révélations et qui ne cache aucun des travers d'une cour par ailleurs très brillante, disons-le. On s'amuse beaucoup à écouter les confidences de la princesse Palatine et l'émission d'aujourd'hui ne devrait pas être triste. Et en même temps, nous allons découvrir un personnage qui a dû avaler énormément de couleuvres et qui a dû subir beaucoup de contrariétés, de ce qu'à la cour on appelait des difficultés. Il n'était pas toujours facile d'être la belle-sœur de Louis XIV.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Ce que nous allons découvrir cet après-midi pourrait bien en surprendre plus d'un. Car si les lettres de la princesse Palatine, dont la première traduction en français remonte au Second Empire, si ces lettres continuent d'avoir un tel succès, c'est qu'elles nous offrent un aperçu sidérant, à la fois très direct et très cru, sur un monde depuis longtemps magnifié par la mémoire nationale. Le Versailles de Louis XIV, lorsqu'on le regarde depuis notre 21e siècle, a l'air un peu compassé, polissé, envahi de hautes perruques et de robes à traînes, noyé dans les brocarts et les plumes, les stucs dorés et le marbre à foison, un peu figé, même guindé, comme prisonnier des rinceaux de Lebrun et des grands airs de Lully. Et voici que tout à coup, on se plonge dans la correspondance d'un témoin franc, d'un témoin fiable qui se trouve là aux premières loges et qu'on découvre un monde, disons-le, pas très reluisant, souvent mesquin, toujours grinçant. Le tableau se veut grandiose, mais il est plein de taches, plein d'ombres. La partition se veut majestueuse, mais elle est en vérité criblée de fausses notes. En lisant la princesse Palatine, on a l'impression d'entendre parler, on a le sentiment de voir vivre dans leur intimité des personnes entrées dans la légende, à commencer par le roi Soleil en personne. Roi Soleil qui du reste ne portait pas encore ce surnom d'époque Louis-Philippe et qui n'était finalement qu'un homme de chair et de sang avec ses qualités humaines et ses défauts non moins humains. Un grand prince, évidemment, mais avec ses humeurs, ses grâces, ses faiblesses, un homme qui se hasardait parfois à faire de l'humour, qui ôtait son chapeau pour saluer une servante dans un couloir, qui se dépensait comme un sportif pour le plaisir de débusquer un cerf. Bref, le témoignage de la Palatine est tellement vivant, il est tellement naturel qu'il nous fait entrer de plein pied dans les coulisses de Versailles, derrière la grande toile de scène un petit peu fanée. Vous savez, il y avait autrefois chez Julliard une collection qui s'appelait « Il y a toujours un reporter ». Et j'ai appris d'ailleurs récemment qu'il y avait une émission qui portait le même titre sur Europe 1 dans les tout débuts, dans les années 55-56. Eh bien, on publiait, en tout cas dans la collection de Julliard, des témoignages de première main sur l'histoire. Tout simplement, on peut dire que la princesse Palatine est le plus vivant et le plus efficace des grands reporters du XVIIe siècle. Elle avait beaucoup de talent pour évoquer les choses. Elle aurait pu nous parler tout aussi bien de la vie d'un couvent ou du quotidien des gens des Halles ou nous décrire l'existence rude et fruste dans les campagnes du royaume. Et cela aurait sans doute donné de bons récits. La fatalité a voulu qu'elle soit la belle-sœur du roi de France et qu'elle se trouve elle-même au centre de la cour. Avouez que ça change tout, évidemment. Ça nous donne un des plus captivants témoignages de tous les temps. Alors, je ne sais pas si le personnage était aussi populaire il y a ne serait-ce que 50 ans. Le regain de popularité de la Palatine date de 1981. Il date de la publication d'une partie de sa correspondance dans la merveilleuse collection Le Temps retrouvé au Mercure de France. Et ce qui a d'abord séduit le public, il ne faut pas se le cacher, c'est qu'une princesse puisse dévorer de la choucroute au lit, puisse traiter l'épouse du roi de vieille conne, de guenon, de sale ripopée. Ce qui a fait fureur, évidemment, c'est le goût de cette princesse pour tout ce qui est scatologique. Je vous lis, par exemple, un extrait d'une lettre où elle parle du dauphin, elle parle du grand dauphin quand même, du fils de Louis XIV. Elle dit « Ah, le dauphin et moi, nous avons souvent parié à qui lâcherait le plus de vent. Et nous nous en sommes bien trouvés. En ces sortes de choses, tout dépend du point de vue où l'on se place. Et je trouve ridicule que pour l'éternuement, on dise « Dieu vous bénisse » avec de grandes révérences, tandis que pour les vents, lesquels nuisent 10 fois plus et peuvent causer des coliques, il faille les retenir. » Vous avouerez que c'est d'une logique à toute épreuve après tout. Il est beaucoup question de tout ça, évidemment, sous la plume de Madame Palatine. Cette correspondance est émaillée de propos que je n'oserais même pas lire à cette antenne. Et bien des avis autorisés se sont extasiés devant le franc-parler et la rudesse de cette princesse allemande catapultée, à Versailles. Peut-être faut-il que je commence par vous dire ce qu'elle faisait là, quand même, parce que c'est quand même l'effet d'un coup du sort invraisemblable. Quand nous découvrons le Versailles de Louis XIV à travers les yeux d'Élisabeth Charlotte de Bavière, il est d'abord question de luxe inconsidéré, d'agape infernale, et pour cause, c'est que notre Liselotte, comme on l'appelait chez elle, a vécu toute son enfance dans la plus grande frugalité, et même, à certains moments, dans le besoin. Sachez qu'elle est née en 1652, elle est née au château de Heidelberg. Pour ceux qui connaissent un peu le Rhin, qui connaissent un peu cette région de l'Allemagne, Heidelberg est un endroit très charmant, vous savez. Elle était la fille de Charles-Louis, électeur palatin. Prince électeur, ça veut dire qu'il faisait partie de ces princes allemands qui élisaient l'empereur du Saint-Empire. Charles-Louis venait à cette époque-là de récupérer son pays, le Bas-Palatinat. Il l'avait récupéré en très mauvais état, après une première occupation française très dure. Heidelberg est une vieille ville avec une université médiévale. C'est cette ville qui a le fameux pont, vous savez, le pont de 9 arches qui enjambe le Neckar. On a tous eu ça en photo dans nos classes quand on apprenait l'allemand, enfant. Ce pont de Heidelberg ne fait que cacher, j'ai envie de dire, la misère de la ville. Il ne faut pas oublier que pendant la petite enfance de Liselotte, dans les campagnes, on a pu relever des scènes de cannibalisme. On était dans un pays qui avait beaucoup souffert. Alors le château était sur les hauteurs, il en reste aujourd'hui des soubassements. Il y a encore la cave avec la fameuse tonne. La tonne, c'est un énorme tonneau sur lequel on a assis la statue du célèbre nain Perkeo, dont on disait qu'il avait réussi à vider à lui tout seul, à boire le contenu de cet énorme tonneau. Bref, le château était une grande bâtisse de granit rose. Mais on y vivait très chichement, on y mangeait surtout de la choucroute. Il faut dire que le prince électeur faisait des économies qui pouvaient aller jusqu'au sordide. On disait qu'il nourrissait ses gens de saucisses de chien quand même. Ça n'a pas tellement pesé ça finalement sur l'enfance de Liselotte. C'est une gamine espiègle, un peu homasse, il faut bien le dire. Elle aura toujours, elle gardera toute sa vie la nostalgie des promenades sur les collines, dans les vignes, parmi les cerisiers. Elle avait un précepteur français, Urbain Chevreau, et elle a été élevée essentiellement par sa tante Sophie, la duchesse de Hanovre, qui était, qu'elle appelle votre dilection, vous savez, dans ses lettres, et qui était, disons-le, une sorte d'intellectuelle. Pour le reste, la vie de la petite princesse a toujours été assez morne et étriquée, mais en même temps douce et tranquille, bref, une vie très provinciale. Et puis, tout d'un coup, tout bascule, puisque Liselotte vient de décrocher la super cagnotte au loto, si vous me passez l'expression. Elle est choisie, retenue par le roi de France pour devenir l'épouse de son propre frère. C'est quand même incroyable comme coup du destin et c'est ce qui s'appelle un véritable catapultage.
Air de trompette et tabal composé par Jean-Baptiste Lully sur Europe 1, Franck.
Ah, vous imaginez les yeux écarquillés de la jeune princesse arrivant à Versailles dans ce qui était à l'époque, évidemment, de très loin la cour la plus brillante du monde. Et elle va devenir rien moins que l'épouse du frère du roi. Et quel frère, monsieur, comme on l'appelle à la cour, est veuf depuis 4 mois, au moment de la décision de ce mariage. Il est veuf d'Henriette d'Angleterre, bien sûr, c'est celle dont Bossuet disait « Madame se meurt, Madame est morte ». Il était bien content d'être veuf, pour tout vous dire, monsieur, parce que, si j'ose cet anachronisme, il était gay. Non seulement il aime les jolis garçons, mais il a tous les attributs d'une homosexualité tout à fait caricaturale. C'est quelqu'un d'une élégance ultra sophistiquée, avec un goût, on peut dire, maladif pour tout ce qui est rubans, parures, bijoux, les parfums. On le sentait, dit-on, 3 salons à l'avance, avant qu'il n'entre. Il a un bas-goût absolument incroyable, le frère du roi. Il est très drôle, du reste, assez cruel dans ses analyses, toujours indiscret, avec une prédilection pour les potins scabreux. Primi Visconti nous dit « On parlait des jeunes gens dans l'entourage de monsieur comme les séducteurs ont coutume de parler des jeunes filles. » Eh bien, c'est ce drôle de mari qu'on réserve donc à Liselotte. Sur le plan familial et princier, ça n'en reste pas moins un mariage extraordinaire. Vous vous dites que ça cache quelque chose quand même, ce très très beau mariage pour cette petite princesse. Ben oui, vous avez raison. Dans le contrat de mariage, il était prévu que la nouvelle madame, puisque la femme de monsieur va s'appeler madame à la cour, la nouvelle madame doit céder ses droits à la succession de son père à sa belle famille. Ce qui veut dire que la couronne de France, au passage, récupère un droit providentiel sur ce palatinat qui est très précieux dans la géopolitique de l'époque. C'est sur le chemin des Pays-Bas, le bas palatinat. Liselotte ignore tout ça et d'ailleurs il y a un malentendu pour elle. En vérité, son mariage est un fabuleux cadeau pour la couronne de France. Mais elle ne voit pas ça comme ça. Elle qui n'a ni appui, ni fortune, ni véritable éducation princière, elle se sent inférieure à sa nouvelle famille. Or, en plus de ça, elle est laide et elle le sait. « J'ai de grandes joues pendantes et un grand visage », écrira-t-elle. « Cependant, je suis très petite de taille, courte et grosse. Somme toute, je suis un petit laidron. Si je n'avais bon cœur, on ne me supporterait nulle part. Pour savoir si mes yeux annoncent de l'esprit, il faudrait les examiner avec des conserves. » Les conserves, c'était le nom qu'on donnait aux lunettes à l'époque. Autrement, il serait difficile d'en juger. On ne trouverait pas probablement sur toute la terre des mains aussi vilaines que les miennes. Le roi m'en a fait l'observation d'ailleurs, et cela m'a fait rire de bon cœur. Car n'ayant pu me flatter en conscience d'avoir quelque chose de joli, j'ai pris le parti de rire la première de ma laideur, et cela m'a très bien réussi. Vous voyez à quel point les confidences de cette étrange princesse sont toujours ambivalentes.
Au cœur de l'histoire.
Avec un récit sur Europe 1 qui nous fait découvrir Liselotte, belle-sœur de Louis XIV, une princesse qui n'avait pas sa langue dans sa poche, une princesse pas tout à fait comme les autres.
Non, pas comme les autres. Vous avez bien compris que sa première arme était l'humour. Il en fallait de l'humour pour être l'épouse de monsieur, frère de Louis XIV. Elle accomplit du reste son devoir conjugal comme elle peut, à la diable, aurait dit Saint-Simon. C'est elle qui prend l'initiative, inutile de vous dire. Elle ferme un peu les yeux sur tout le cérémonial qui entoure les ébats de monsieur et madame, puisque le prince la couvre de médailles miraculeuses, il l'asperge d'eau bénite avant l'acte sexuel. En fait, tout ça est assez étonnant, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Elle n'en donnera pas moins 3 enfants à monsieur, dont un fils va vivre assez pour devenir le régent. Le régent Philippe d'Orléans, c'est quand même le fils de Liselotte. Et à la mort de son oncle Louis XIV en 1715, il devient donc le maître de la France. Quant à sa fille, elle deviendra duchesse de Lorraine et sera donc la grand-mère de Marie-Antoinette. Alors, la deuxième arme de madame dans cette cour incroyablement hypocrite, paradoxalement, c'est sa franchise et c'est son naturel. Elle tranche gravement sur le décor, il faut le dire, mais elle a au moins la justesse et l'intelligence de ne pas chercher à être ce qu'elle n'est pas. On la surnomme le paysan du Danube. Eh bien, elle fait semblant de s'en amuser. Elle jure et crache comme un charretier, nous dit-on. Elle monte à cheval comme un mousquetaire. Elle préfère les bonnes grosses potées de son pays aux mets délicats de la gastronomie versaillaise. Tout ça est vrai, elle ne s'en cache pas. Et pour tout vous dire, ça plaît beaucoup à Louis XIV. Ça plaît tellement à Louis XIV qu'il s'en tiche de sa belle-sœur. Si je puis dire, il la met à la mode. Et pendant plusieurs années, on va voir madame, en tout cas dans les premières années de son mariage, faire plus ou moins la pluie et le beau temps à la cour de Louis XIV. Madame le veut, dit-on, ça devient une formule. Quand madame le veut, eh bien il faut céder. Or, ce qui est intéressant, c'est que l'inclination du roi est tout à fait réciproque. Et c'est même le moins qu'on puisse dire, puisque la vérité, c'est que madame, qui a du mal à tomber amoureuse de son mari, évidemment, va très vite tomber amoureuse de son beau-frère, en revanche. Elle a une fascination pour Louis XIV. Et pourtant, on pourra dire qu'au cours de son règne, sur les grandes affaires, Louis XIV ne la ménagera pas. Il l'accable constamment, il va souvent jusqu'à soutenir les amis de monsieur. C'est toute la politique fraternelle. Ça aussi, il faut que nous en reparlions avec mon invité, avec Christian Bouillet, c'est assez passionnant. À deux reprises, c'est encore bien plus grave, Louis XIV va envahir, enfin ses troupes vont envahir le Palatinat et vont incendier ce qui constitue quand même le pays natal et le pays de cœur de madame. Ça va même entraîner l'une de ses invasions, indirectement, ça va entraîner la mort de celui qu'elle appelle son pauvre papa. Par ailleurs, Louis XIV va aussi obliger le fils de Madame Philippe à épouser Mademoiselle de Blois, c'est-à-dire une de ses enfants bâtardes avec Madame de Montespan. Vous voyez le nombre de couleuvres quand je vous le dis. Et derrière tout ça, bien sûr, Liselotte voit la main de celle qu'au cours des années, elle a fini par considérer comme son ennemi intime. Il faut imaginer toute la frustration de cette princesse, bien sûr, et toute la rancœur qui finit par s'accumuler, qui finit par cristalliser, par se concentrer sur l'épouse morganatique du roi. Vous savez qu'après la mort de Marie-Thérèse, la reine Marie-Thérèse, en 1683, Louis XIV a réépousé secrètement, on dit de façon morganatique, Madame de Maintenon, et ça, c'est la véritable ennemie de Liselotte. La créature, elle l'appelle, la putain, la vieille ordure, la ratatinée, l'empoisonneuse, en fait, etc. Et elle crible ses lettres de toutes ces insultes, alors qu'elle sait très bien qu'il y a un bureau spécial des services spéciaux, si je puis dire, qui s'appelle le cabinet noir, qui ouvre la correspondance des personnes importantes, et que tout ça tombe sous les yeux même de Madame de Maintenon. Elle le fait exprès, rien que pour l'embêter, si je puis dire. Et puis en 1701... En 1701, il y a cet épisode terrible, Louis XIV se dispute, on peut dire, avec son frère à propos d'une maîtresse, la demoiselle de Cléry, qui est une des filles d'honneur de madame et dont le jeune prince, le duc de Chartres, donc le fils de monsieur, serait amoureux. Mon fils s'ennuie, répond monsieur. Vous ne lui confiez, il parle à son frère, il parle au roi, vous ne lui confiez aucune charge dans vos conseils. Que voulez-vous qu'il fasse? Vous êtes le responsable de ses loisirs forcés. Vous n'avez qu'à l'utiliser pour le bien des affaires publiques, il cessera de courir les filles. Croyez-vous, rétorque Louis XIV, que je vais recruter mes ministres parmi les clients des salles de jeu et les maisons de plaisir? Et là, le ton monte, bien entendu. Est-ce bien à vous, mon frère, répond monsieur, de donner des leçons de fidélité à un jeune homme marié contre son gré, à vous qui avez entretenu tant de favorites et les avez courtisées en présence de la fereine? Et là, il y a du monde derrière la porte qui écoute et on entend le ton monter, les frères qui se mettent à se tutoyer. Ça, c'est pas bon signe, c'est très très rare entre un roi et un prince du sang. Et les insultes sautent impunément. Dans coquin, irrévérencieux, enfin bon, ça chauffe vraiment. Et quand monsieur sort, il saigne du nez. On arrive à arrêter ce premier saignement de nez. Il quitte Marly, il rentre chez lui à Saint-Cloud. Et là, il se met à saigner du nez, alors de façon beaucoup plus importante. Il a sans doute été. La dispute a été trop violente. Et une heure après seulement, il commence déjà à délirer. Et dans la soirée, il passe, comme on disait à l'époque, monsieur est mort. Et pour madame, bien entendu, ça, c'est un changement terrible. Elle devient la veuve, la belle-sœur, certes du roi, mais la belle-sœur veuve. On peut dire qu'à partir de ce moment-là, madame va se mettre un peu en retrait, à partir de 1701, se cantonner à la vie de l'esprit, si je puis dire. Nous parlerons dans un instant de ses relations incroyables avec Leibniz. Le dernier grand chagrin de sa vie, ce sera de perdre en 1715 ce grand homme qu'elle a toujours aimé secrètement, ce Louis XIV qui, juste avant de mourir, lui a dit « Madame, vous n'imaginez pas combien je vous aurais aimé ». Elle se fera en quelque sorte l'avocate de Louis XIV pendant toute la période de la Régence. Et ce qui est étonnant, c'est que tout ce temps après, les lettres qu'elle a adressées à ses correspondants, notamment en Allemagne, toutes ces lettres nous font revivre mieux qu'aucun autre témoignage cette cour de Louis XIV. Je vous cite un extrait d'une lettre tardive, hein, 20 juillet 1719. Je tire cet extrait de l'ouvrage « La princesse palatine » que Christian Bouillet a publié chez Pygmalion. Elle raconte qu'au moment de son arrivée en France, elle se promène une nuit dans les jardins de Versailles et il y a un garde qui l'arrête, qui lui barre le passage. Elle lui dit « Bon Suisse, c'était des Suisses hein, les gardes, laissez-moi faire ma promenade, je suis la femme du frère du roi. » Ah, parce que le roi a un frère, demande le Suisse. Comment? Vous ne savez pas cela? Combien de temps y a-t-il donc que vous êtes au service de sa majesté? 30 ans, répond le garde. Comment? Et vous ne savez pas que le roi a un frère? Mais on vous a fait prendre les armes quand il passe. Ah oui, quand on bat la caisse, je prends les armes, mais un peu pour n'importe qui. Je n'ai jamais demandé si le roi avait une femme, des enfants ou un frère, je ne m'en inquiète pas. » Et Liselotte précise, « J'ai fait rire de bon cœur le roi en lui rapportant ce dialogue. Aussi drôle soit-il, nous dit Christian Bouillet, aussi drôle soit-il cet épisode à valeur de témoignage. À Versailles, à Fontainebleau, à Saint-Germain, comme au Louvre, au Palais-Royal et à Saint-Cloud, le monde des grands et le personnel civil et militaire se côtoient continuellement et s'ignorent. Il serait faux de croire que les lingères de la garde-robe s'extasient devant les robes dont elles ont le soin, que les cochers qui restent des heures entières sur le siège des carrosses s'interrogent sur la qualité des occupants qui les font attendre, ou que les livreurs de gibier, de poissons, de légumes et de fruits louchent sur les jeunes nobles poudrés, empanachés et bruyants qu'ils croisent. Louis XIV a toujours eu le plus grand respect pour les serviteurs. L'image d'Épinal qui le montre se décoiffant devant une servante en train de nettoyer un escalier n'est pas indécente. Elle n'enlève rien à la majesté royale. De son côté, Madame, si spontanée avec les paysans du Palatinat dans sa jeunesse, n'a rien perdu de sa simplicité. Cette disposition naturelle et partagée à l'égard des humbles n'échappe pas au roi et agit certainement de manière positive en faveur de sa belle-sœur. Bonjour Christian Bouillet.
Bonjour.
Vous faites revivre cette princesse truculente, pleine d'une énergie extraordinaire dans cette belle biographie qui est parue chez Pygmalion il y a quelques années déjà. La princesse palatine, belle-sœur de Louis XIV. Elle était certes la belle-sœur de Louis XIV, mais elle n'en a jamais cessé d'être pour autant la fille de l'électeur palatin.
Absolument. Je crois que cette jeune femme n'était pas du tout destinée à devenir la belle-sœur de Louis XIV. Elle était pas destinée du tout à être l'épouse de monsieur. D'ailleurs, leur premier contact, quand ils se sont rencontrés, bon, ils étaient tellement différents, comme vous l'avez évoqué déjà tout à l'heure, Philippe d'Orléans dit, mais comment je vais se faire pour coucher avec elle? Bon. Et elle avait dit, j'ai pas du tout été impressionné par ce petit monsieur sur ses souliers à talons hauts, avec des bagues à tous les doigts. Enfin, bon, ça n'a pas été un contact absolument extraordinaire. Et pourtant, après, la nuit de noces s'est bien passée, et surtout le roi a très bien reçu sa belle-sœur quand ils se sont dirigés vers Versailles.
Est-ce que l'amour que très tôt la jeune princesse a éprouvé pour son royal beau-frère l'a aidé à soutenir toutes les vilainies que la cour de France lui a infligées? Je pense que oui. Vous allez nous expliquer comment, et surtout nous allons revenir en votre compagnie, Christian Bouillet, sur un certain nombre des duretés de cette vie qui a été moins facile qu'elle n'en a l'air.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et Franck, vous recevez aujourd'hui sur Europe 1 Christian Bouillet, qui est professeur agrégé, spécialiste du XVIIe siècle français, auquel il a consacré de nombreux ouvrages, dont vous l'avez cité tout à l'heure, La princesse palatine chez Pygmalion.
La princesse palatine, belle-sœur de Louis XIV. Et quand Louis XIV meurt en 1715, je pense que tout le monde sait ça à peu près, le 1er septembre 1715, mort du grand roi, pour elle, c'est vraiment, sans mauvais jeu de mots, le soleil qui s'éteint. Ça a été l'homme de sa vie, finalement, même s'il n'a été jamais que son beau-frère.
Oui, c'est vrai que dans les dernières années, à Versailles, au dîner du soir, la princesse palatine écrit « Nous sommes 7 ou 8 ici à avaler notre repas. » En fait, c'est extrêmement triste. C'est très, très triste.
Les dernières années du règne de Louis XIV ont été sinistres.
Absolument. Dire, mais... C'est vraiment... soleil à son coucher. Et elle a, comment dire, était très proche à ce moment-là de Louis XIV. Mais ça faisait très longtemps qu'ils s'entendaient à merveille depuis qu'elle est venue à Versailles ou à Paris. Et elle s'entendait très bien avec lui pour une raison qui est très simple, c'est que Louis XIV connaissait son frère, il savait que c'était pas un cadeau, donc il fallait un peu aider sa belle-sœur. Et il y avait le fait qu'elle avait un côté très spontané, très naturel, qu'elle aimait la chasse, qu'elle aimait le cheval, qu'elle aimait le grand air. Et ça, ça plaisait beaucoup à Louis XIV.
Alors, après la mort du roi, le Parlement de Paris va casser le testament de Louis XIV et va donner la régence pleine et entière au fils de monsieur et madame, donc à Philippe d'Orléans, qui devient régent de France. Oui. C'est donc pour elle, après avoir été la belle-sœur du roi, elle est carrément la mère du régent. Elle a toujours été au sommet dans la hiérarchie en France. C'est une très haute personnalité, il faut bien le dire. Et pourtant, elle ne profite pas de cette régence. Elle vit essentiellement un petit peu au Palais-Royal à Paris et puis surtout dans son château de Saint-Cloud qui avait été admirablement décoré par monsieur et qui avait notamment créé autour du château des jardins absolument merveilleux. Elle est un peu en retrait et on a l'impression qu'elle se lamente sur le passé, elle devient nostalgique sur le tard.
C'est vrai, mais elle a été le personnage féminin essentiel de la cour à partir de 1690, lorsque l'épouse du grand dauphin décède. Et c'est une des raisons du conflit avec la Maintenon, le fait qu'elle soit le premier personnage féminin. Et on raconte que quand elle assistait à des vêpres, à des sermons avec le roi, elle était à côté du roi et manifestement, Madame de Maintenon n'était pas contente du tout. Il lui arrivait même de s'endormir et le roi lui donnait des coups de coude dans les côtes.
Oui, parce qu'elle ronflait aussi. Enfin, elle se gênait pas, si je puis dire.
Oui, mais c'est vrai que les dernières années de Louis XIV qui ont été terribles, la princesse Palatine a toujours été proche de lui. Et pourtant, elle n'avait pas une santé énorme à ce moment-là. Pas plus que le roi, qui était beaucoup plus âgé, bien entendu. Mais elle avait de gros problèmes de santé déjà. Elle avait du mal à se déplacer. Elle avait du mal à manger ce qu'elle désirait manger. Elle ne pouvait plus manger les énormes choucroutes et tout ceci.
Elle a quand même bien survécu à Louis XIV. Elle assistera notamment au sacre du jeune Louis XV.
Oui.
Après la Régence.
Hein. Oui.
Enfin, pas après, mais vers la fin de la Régence, plus exactement.
Oui. Elle n'était pas toujours contente de son fils régent. Elle trouvait qu'il y avait de réels problèmes. Elle ne comprenait rien à cette histoire du système de l'as au point de vue financier. Bon, mais
la banqueroute terrible.
La banqueroute qui a été terrible. Elle vivait soit donc à Saint-Cloud, soit au Palais Royal, puisque le régent donc n'était plus à Versailles, et dans sa maison de Colombes aussi. Mm-hmm. Et donc elle avait.
On dit au milieu de chats jaloux, de perroquets à moitié fous et de petits chiens obèses.
Oui, absolument. Elle avait une quantité de chiens, 7 à 8 chiens, qui étaient des épagnols et qui étaient toujours présents lorsqu'elle écrivait. Alors, après la mort de monsieur et jusqu'en 1722, année de son décès...
Donc entre 1701 et 1722.
Oui, elle a continué à écrire. Elle recevait un peu chez elle, mais enfin, elle lisait énormément.
Elle a écrit plus de 10 000 lettres. C'est très important.
Il semblerait qu'elle en ait écrit près de 60 000 et on en a gardé à peu près un dixième. Il y avait un problème, c'est que quand quelqu'un décédait, on faisait disparaître sa correspondance. Et c'est vraiment dommage de nos jours.
Par ailleurs, c'est une correspondance forcément éparse et ça n'est pas forcément une correspondance familiale. Elle a entretenu notamment une correspondance assez relevée avec un des plus grands esprits du temps, un des grands scientifiques de toute l'histoire de l'humanité, avec le grand Leibniz en personne.
Oui, Leibniz, il était chez Sophie, la fameuse tante Sophie, à Hanovre.
Elle l'avait elle-même connu à la cour de France, du reste.
Voilà. Et donc, il était bibliothécaire à Hanovre. Et elle l'a connu là-bas. Et ils ont continué. C'est un petit peu comme la sœur de Sophie, qui entretenait une correspondance avec Descartes. Donc, les grands philosophes, pour ces gens-là, c'était quelque chose de très important.
Oui, les altesses royales entretenaient des correspondances suivies avec les grands penseurs de ce temps. Et ce qui est drôle dans les lettres qu'adresse Madame Palatine à Leibniz, c'est qu'elle fait somme toute assez peu de cas des grandes théories. Elle lui pose souvent des questions très concrètes, très pratiques, et elle lui fait partager son indignation contre ce qu'elle considère être une baisse de la moralité à la cour. Et ça, c'est très important. Cette personne qu'on présente toujours comme extrêmement presque scatologique, extrêmement grossière, sans façon, etc., combine, si je puis dire, ce comportement un peu relâché avec une très grande rigueur morale. Elle n'est pas du tout relâchée sur le plan des mœurs, c'est le moins qu'on puisse dire, et elle a une conception très rigide des choses. Ça, c'est le fruit de son éducation.
Ah oui, moi je crois que ça vient de son éducation à Heidelberg, et puis le passage qu'elle a fait chez la tante Sophie pendant 6 ans. Mais elle a gardé de son éducation, même s'il est devenu catholique pour épouser monsieur, elle a gardé de son éducation calviniste, protestante, toutes sortes de bases très importantes.
Finalement, il y a beaucoup de protestantisme, hein. Il y a une morale et une attitude protestante chez cette princesse, tout simplement, et c'est peut-être peut-être ce qui paraissait tellement exotique pour la cour ultra-catholique de Louis XIV.
Oui, mais elle se fabriquait une morale un petit peu particulière. Par exemple, elle n'admettait pas que les femmes fument ou prisent. Alors, c'est vrai que l'épouse du duc d'Orléans, le futur régent, buvait énormément, elle mangeait au lit, elle prisait énormément, et donc la Palatine n'admettait pas que les femmes fument.
Elle admettait d'autant moins qu'elle détestait sa belle-fille.
Exactement. Et le café. Et elle avait horreur du café. Elle disait, par exemple, il y a la fille du régent qui était très belle petite et en grandissant est devenue un peu assez laide, avec un très grand nez. Et la Palatine écrit que si elle n'avait pas bu de café dans sa jeunesse, elle aurait été aussi belle que quand elle était enfant. Bon. Donc, c'est vraiment des bêtises.
Elle avait une vie très réglée, par ailleurs. Elle vivait au milieu de ses animaux, avec une très petite cour, sans beaucoup de protocole, même si elle était très à cheval sur l'étiquette, ce qui est normal. Elle tenait à ce qu'on respecte son rang, bien entendu. Elle allait à la comédie chaque fois qu'elle le pouvait. Elle était d'ailleurs à la cour de toutes les grandes dames de la cour. Elle est la seule à aller à la comédie presque tous les jours.
Elle adorait la comédie.
Aujourd'hui, elle regarderait des DVD, si je puis dire.
Je pense. Mais elle avait une vie qui était extrêmement réglée. Le matin, après son réveil, elle commençait à écrire. Ensuite, elle allait à la messe, elle recommençait à écrire. Après le déjeuner, elle se remettait à écrire et elle écrivait encore le soir. Et il y avait des journées pour écrire en Angleterre, écrire en Espagne, écrire... c'était quelque chose qui était prévu.
Tout ça était bien prévu, bien calibré. Oui. Avec vous, nous revenons, Christian Bouillet, dans un instant sur les grandes difficultés, sur les terribles épreuves qu'a eu à traverser cette princesse pas comme les autres.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Extrait sur Europe 1 des symphonies pour les soupers du roi composé par Michel Richard de Lalande Franck.
Voilà la musique qui claque et qui va très bien avec notre personnage, avec cette princesse palatine, auteure de milliers de lettres qui nous font vivre et revivre la cour de Louis XIV d'une façon tout à fait vivante, tout à fait réelle, si je puis dire, ce qui change évidemment d'un certain nombre de visions qu'on pouvait en avoir. Cette princesse palatine qui, sous sa truculence, sous cet humour, sous cette vitalité incroyable, cachait quand même pas mal de désespoir. C'est une femme qui a dû vraiment subir beaucoup d'épreuves, hein. il faut le dire, Christian Bouillet.
Sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille,
non,
c'est sûr. Elle est arrivée d'abord en France quand on pense que entre Strasbourg et Metz, où elle s'est mariée par procuration, elle a mangé 3 olives en 3 jours. Donc elle voulait pas venir. Et puis ça s'est mieux passé par la suite.
Ces princesses déracinées vivent presque toutes cette espèce d'arrachement terrible.
Hein.
C'est très dur.
Elle a vécu...
Il faut changer du jour au lendemain de pays, de culture, de langue, de tout. Hein, c'est terrible.
De religion.
Religion d'abord.
Elle a vécu dans une prison dorée. Alors, les premiers problèmes sont arrivés très rapidement, parce que si elle a été à la mode très rapidement, Louis XIV l'a mise à la mode très rapidement avec sa fameuse zibeline.
Oui,
parce que
voilà.
Le jour de son mariage, elle avait une simple robe, or il devait faire 0 au mois de novembre. Et elle n'était pas couverte du tout. Elle arrive ensuite à la cour avec sa zibeline et tout le monde en veut en avoir une. Donc elle a commencé à avancer. Mais dès le départ, il y a l'entourage de monsieur qui a été très dur à son égard.
Oui, tous les petits amis de monsieur se montrent particulièrement cruels, même,
exactement,
il faut le dire. Hein. Oui.
Exactement. Et il y a eu ensuite, bien sûr, Madame de Maintenon.
Alors
Madame
là, ça
de Maintenon,
c'est la...
ça a été quelque chose d'absolument épouvantable. Pourquoi ?
Alors, oui. Expliquez-nous ça.
Écoutez, je crois qu'il y a 2 ou 3 idées qui conduisent à cela. C'est premièrement le fait que la Maintenon était dans une période où elle commençait à mettre le grappin sur le roi, dans le sens d'une plus grande moralisation de la cour. Et elle voyait bien que monsieur était quand même un personnage qui était extrêmement libre de mœurs et puis de comportement. Et donc, ça lui convenait pas, Madame de Maintenon. Et comme la Palatine, en plus, le roi roi l'aimait bien, qui avait été sportive, tout le contraire de maintenant.
Ah oui,
elle avait été sportive, elle suivait le roi à la chasse à cheval et tout ceci.
Elle était nettement plus jeune, hein, d'ailleurs.
Exactement. Et en plus, la Palatine n'aimait pas beaucoup les bâtards du roi qu'on voulait faire épouser plus tard à ses enfants.
Or, madame de maintenant n'avait Dieu que pour eux, notamment
exactement,
pour le duc du Maine.
Le petit
avait...
duc du Maine, et puis aussi sa sœur, mademoiselle de Blois, et on voulait les marier avec les deux enfants du duc d'Orléans et puis de la Palatine. Et il n'y a qu'un mariage qui va être effectif.
La plupart du temps, les deux dames coexistent sans trop se chamailler, mais il y a eu quelques explications terribles, et notamment ce jour où madame de Maintenon révèle à la Palatine, qui s'en doutait beaucoup, qu'elle sait ce qu'on écrit d'elle et qu'elle lit les lettres que le cabinet noir a transmises au roi. « Je connais vos lettres, madame, toutes vos lettres. On m'en a donné copie. Ah, je suis une vieille putain, je suis une guenon, une hypocrite, un tartuffe en jupon. Ah, je suis une gorgone, une sorcière, un suppôt du diable. Eh bien, je vous le déclare, je ne me suis jamais offensé de ces insultes de votre Altesse royale parce qu'elle n'a pu apprendre ces mots qu'au contact des piqueurs et des valets de chiens avec lesquels elle se plaît d'ordinaire.
» Oui. Mais c'est un réel problème entre elles. Hein. Elles ne pouvaient pas se supporter. Seulement en 1701,
la mort de monsieur,
à ce moment-là, elles vont être obligées de se raccommoder. Mmh. Hein. Et le roi, donc, va faire en sorte que ça se passe pas trop mal. Alors, il y a eu surtout les problèmes de Palatinat qui a été détruit par
l'invasion
Louis XIV.
L'invasion du Palatinat, c'est Louvois qui est derrière tout ça, on le sait.
À deux époques, en 1674 et après
juste
en
après
1688,
le
juste après le mariage. Et là, on a quand même détruit énormément de choses. 27 bourgs et villages sont incendiés. Il y a eu les villes du Palatinat ont été occupées. Ça a été quelque chose d'absolument extraordinaire. Et il y a le père de Wisebath qui voulait provoquer Turenne en duel. Puis Turenne est parti, il lui a pas répondu. Donc ça s'est terminé comme ça. Et ça a été encore beaucoup plus terrible.
En 88.
Parce qu'en 88, Adelberg a été détruit. Le château de grès rose de style Renaissance allemande a été détruit. Il est toujours pas reconstruit d'ailleurs. Hein. Donc
pour elle, ça devait être terrible de vivre auprès d'un roi qui était le massacreur de son propre peuple.
Exactement. Et elle a fait une crise psychologique absolument épouvantable. Il faut appeler ça une dépression.
Oui,
elle a fait une dépression absolument extraordinaire. Mais c'était un faux prétexte du roi. Puisque le père de Wisebath était décédé, son frère était décédé aussi, et on a mis un nouveau électeur palatin qui s'appelait Neubourg. Et Louis XIV s'est dit, j'en veux pas de celui-ci. Je vais créer une principauté en faisant valoir les droits de la princesse, où je vais mettre mon frère comme prince, il va quitter Versailles, il va s'en aller là-bas, ce sera très bien. Hein. Et malheureusement, avec cette fausse bonne idée, eh bien, ça va être la destruction complète du Palatinat.
Ce que vous nous rappelez aussi, c'est qu'elle a perdu un de ses fils.
Oui.
Dans des circonstances terribles.
Le premier, le petit duc de Valois, il est mort à 3 ans. Il était né en 73, un an après le mariage. Il est mort en 76. Et c'est vrai que...
On est donc, pour ceux qui viendraient, nous rejoindraient, on est en 1676, hein, on est sous Louis XIV, bien sûr.
Absolument. Et ce petit duc de Valois est mort à l'âge de 3 ans. Il faut dire que les médecins du style des médecins de Molière n'ont pas vu la maladie qu'il avait. Et ça a été terrible. Elle a dit, c'est comme si on lui avait mis un pistolet sur la tempe. On m'a tué mon fils.
Elle avait un très grand mépris pour les médecins, mais pas seulement. D'une façon générale, tous les corps constitués qui lui faisaient de grandes révérences à la cour de Versailles n'avaient pour elle aucune valeur. Elle est d'une dureté dans ses lettres, c'est très drôle hein, d'ailleurs.
Absolument,
elle est dure contre tout le monde, les maîtres à danser, la musique du roi qui ne trouve pas grâce à ses yeux, les médecins, les piqueurs, les gens qui accompagnent à la chasse, qui ne sont pour elle pas... Enfin, personne ne trouve grâce à ses yeux, c'est assez étonnant. Elle est dur quand même.
Mais il faut dire que monsieur qui avait une centaine de personnes pour faire la chasse et lui, il n'y avait jamais la chasse.
Donc, il y avait tout un équipage, ce qu'on un équipage
royal.
C'était
elle qui s'occupait de tout cela.
Oui. Hein. Elle adorait les animaux. Donc.
Elle adorait les animaux. Quand elle écrivait ses lettres, il y avait ses 7 chiens qui étaient autour d'elle, un sous sa jupe, un derrière son dos, un autre tiki qui était sur la table, qui renversait l'encrier. Il y avait Mionne, il y avait tout un ensemble de chiens qui étaient là. Et elle les mettait en son carrosse et après, s'ils avaient été sages, elle les emmenait se promener au bois.
J'aimerais, Christian Bouillet, qu'on termine sur cette anecdote que Saint-Simon a immortalisée, évidemment, au moment où le tout jeune prince, enfin duc de Chartres, donc son fils, hein, Philippe, accepte, en présence de son père, dans le cabinet du roi, en personne, accepte d'épouser une bâtarde de Louis XIV. Elle n'a pas été convoquée, elle n'a pas été consultée, elle est furieuse, hystérique de rage. Et quand il passe dans la galerie des glaces, le lendemain matin, qu'est-ce qu'elle trouve à faire ? Elle le soufflait en public. C'est une claque qui a fait beaucoup de bruit dans l'histoire.
Absolument. Mais elle ne supportait pas du tout celle qui va devenir sa belle-fille. Elle disait que, d'abord, elle n'était pas belle. Bon, moche comme un C. Hein, donc, bon, hein, elle disait d'Ève qu'elle avait la bouche, elle parlait comme si elle avait la bouche pleine de bouillie. Qu'elle n'admettait pas du tout qu'elle fume et puis qu'elle mange au lit. Bon, c'était que. Et son mari, d'ailleurs, l'appelait Madame Lucifer. Donc, c'était quand même,
bien.
Bon, c'était quand même assez extraordinaire, cette Madame Lucifer. Ça n'empêchera pas qu'ils auront beaucoup d'enfants, hein, donc. Mais, elle ne voulait pas entendre parler de ce mariage. Mais, surtout, celui-ci a pu passer, mais elle voulait surtout pas que le duc du Maine, qu'elle détestait encore plus, devienne son beau-fils en épousant la petite Élisabeth Charlotte, la fille.
Elle s'est dit une fois d'accord, mais sûrement pas deux.
Et comme elle n'était pas présente dans le cabinet du roi quand ça a été fait, dès qu'elle a rencontré son fils dans les couloirs, elle lui a
dans la galerie des glaces, carrément.
Dans la galerie des glaces, une gifle magistrale, mais il n'a rien dit.
Devant toute la cour,
devant
c'était un peu choquant.
Cour.
Évidemment. Il faudrait parler aussi du mauvais moment qu'elle a passé en 1712, au moment où meurent successivement le duc de Bourgogne, la duchesse de Bourgogne, que Louis XIV aimait tant, et puis leur fils aîné. Et on accuse son fils, Philippe, d'être l'auteur, d'être l'empoisonneur. Évidemment, il faut qu'elle supporte tout ça. N'oubliez pas de rappeler, me demande Josette, qu'Anne-Marie Carrière, je le fais volontiers parce que c'est un bon souvenir d'enfance pour moi aussi, qu'Anne-Marie Carrière avait fait aimer cette femme, la Palatine, dans un téléfilm. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait, au moment où on a redécouvert, on va dire, le personnage, on a fait pas mal de pièces de théâtre, de films, de téléfilms sur elle. Il faudrait la relancer une fois de plus. C'est ce que vous faites dans cette belle biographie publiée chez Pygmalion, La princesse Palatine de Christian Bouillet. Vous en saurez plus sur cette étrange belle-sœur de Louis XIV.